Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 14h15, vous êtes bien sur 48 FM. Oriane Mousse vous présente le programme de cette émission. Bonjour Oriane.
Bonjour Louis, bonjour à tous. Après un petit couac technique, nous sommes de retour à l'antenne. Bienvenue sur Écho Sonore, ici la voix des Master 2 résonne pour décrypter les sujets qui ont fait l'actualité. Et au programme de cette émission, nous reviendrons sur l'état de l'engagement journalistique chez Mediapart, focus sur les valeurs revendiquées par la rédaction. Nous parlerons du traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles. Quelle évolution depuis l'affaire MeToo? Et ensuite, nous analyserons l'affaire P. Diddy, retour sur ce procès très médiatisé. Et finalement, questionnons-nous sur le bien fondé des travaux du circuit de Spa-Francorchamps. Et nous accueillons Eléa Schillaci, bonjour.
Bonjour Oriane.
Tu t'es intéressée à l'engagement journalistique chez Mediapart. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te pencher sur ce sujet ?
Eh bien, l'intérêt de sur la rédaction de Mediapart, c'est en fait une question que je me suis posée en tant que jeune journaliste. C'est est-ce qu'on peut toujours pratiquer un journalisme engagé dans les médias traditionnels et actuels ? Et en fait, c'était Mediapart qui répondait le mieux à cette question, car c'est une rédaction avec énormément de valeurs progressistes et engagées.
Et nous entendrons ça dans ton podcast que nous allons écouter tout de suite.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va rentrer dans une rédaction qui ne laisse personne indifférent. Une rédaction qui revendique haut et fort une manière singulière de faire du journalisme. On va parler de Mediapart.
Mediapart défend depuis sa création ce que j'appelle un journalisme d'impact. Un journalisme au service de l'intérêt public.
Depuis 2008, le journal assume une posture rare dans le paysage médiatique français, l'engagement. Mais attention, pas l'engagement qui brandit un drapeau, pas l'engagement qui colle à un parti, non. Pour Mediapart, l'engagement, c'est une boussole éthique, une manière de regarder le monde et de servir la démocratie. Des valeurs portées par Rédu Plenel, l'un des fondateurs emblématiques du journal.
On peut ne pas apprécier tel ou tel article de Mediapart, et c'est normal, c'est le pluralisme. Il faut nous juger sur l'utilité de ce que nous publions. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça sert à l'intérêt public ?
Toutes les affaires qui ont dérangé la gauche, toutes les affaires qui ont dérangé l'extrême droite, toutes les affaires qui ont dérangé la droite, c'est nous. La seule façon dont vous pouvez nous juger, justement, c'est est-ce que nos informations sont bonnes, est-ce qu'elles sont utiles, est-ce qu'elles ont une utilité sociale, est-ce qu'elles sont pertinentes.
Des valeurs toujours d'actualité pour la rédaction, à l'image de Karine Fouteau, présidente et directrice de la publication à Mediapart.
On assume d'être un journal engagé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire engagé ? Ça veut dire qu'on défend des valeurs progressistes, d'égalité, de justice sociale, de solidarité, de sobriété, de probité. Ce sont vraiment des valeurs qu'on défend dans notre ligne éditoriale. Et ces valeurs, pour nous, elles constituent le socle de la manière dont on va regarder, interpréter le monde qui nous entoure.
Et cet engagement, ce n'est pas un simple slogan, c'est un contrat, un pacte passé avec le lecteur, une mission d'utilité sociale, informée pour que chacun puisse demander des comptes aux puissants. Ce travail, il peut déranger. Fabien Roussel, membre du Parti communiste et candidat à l'élection présidentielle de 2022, s'en est d'ailleurs plaint.
Mediapart me demande de retourner mon bureau à un moment où je suis en pleine campagne électorale. Je n'ai rien à cacher.
Mais pour être engagé, il faut d'abord être libre. Et chez Mediapart, cette liberté, elle repose sur un choix radical. Pas de publicité, pas d'actionnaire milliardaire, pas de subvention publique, rien. Juste les lecteurs. Cécile Sourd, directrice générale, l'explique très simplement.
Comme on n'a que des abonnés qui nous financent, on n'a pas de pression, comme c'est le cas dans d'autres médias, pas de pression des annonceurs pour écrire ou ne pas écrire telle et telle chose. On n'a pas de pression du côté de l'État, puisqu'on ne reçoit pas de subventions publiques. On n'a pas d'accords commerciaux avec les grandes plateformes non plus, ce qui donne une totale liberté. Éditorial.
98% des revenus viennent des abonnements, c'est énorme. Et pour protéger cette indépendance, Mediapart a verrouillé son capital dans un fonds de dotation. En clair, le journal ne peut plus être acheté, personne ne peut mettre la main dessus. Michael Heidenberg, qui est co-responsable du pôle enquête, insiste, cette indépendance, c'est le cœur battant du projet.
L'indépendance, c'est une valeur essentielle et centrale, de n'être tenu par personne, de n'avoir de compte à rendre à personne, et ça c'est notre modèle économique nous permet d'avoir cette indépendance totale, cette liberté est fondamentale.
Sans cette liberté, impossible d'enquêter sereinement sur les pouvoirs. Tous les pouvoirs. On entend souvent « Mediapart, c'est militant ». Mais à l'intérieur de la rédaction, la frontière est nette. Le militantisme, c'est défendre une cause. parfois au détriment du réel, tandis que le journalisme, pour eux, c'est l'inverse. Regarder le réel, même quand il dérange. Fabrice Arfi, figure de l'enquête, ne tourne pas autour du pot.
Mais un journal, un bon journal, ne peut pas être militant. Parce que quand on est militant dans le journalisme, ben en fait, on s'empêche de regarder des choses qui vont à l'encontre de la cause qu'on veut défendre. Donc, engagé, oui, militant, non.
L'engagement chez Mediapart passe donc par une méthode de phare. Une info n'est publiée que si elle est vérifiée à 100%. Et cette rigueur, elle concerne tout le monde, comme l'explique Lénaïque Brédoux, co-chef éditorial.
Oui, c'est produire des faits. C'est raconter, témoigner, quelle que soit la forme, hein, l'enquête, le reportage, l'interview, même l'éditorial d'un certain point de vue. C'est produire de l'information. Donc produire des faits, vérifier, recouper. C'est pas seulement les journalistes d'investigation qui recoupent leurs informations. C'est tous les journalistes. L'engagement ne se fait jamais aux dépens des faits.
Mediapart, c'est aussi une méthode collective. Pour éviter les biais, les journalistes travaillent en binôme, ils discutent, ils se contredisent parfois. Personne ne part seul dans une enquête. Et c'est cette méthode collective qui a permis de sortir des affaires majeures. L'affaire Cahuzac, qui révélait en 2012 que le ministre du Budget sous François Hollande, Jérôme Cahuzac, était en réalité un fraudeur fiscal. Des accusations qui auront un lourd impact institutionnel en France et qui le pousseront à se justifier devant l'Assemblée nationale.
Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
L'affaire Benalla mettant en cause Alexandre Benalla, collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Élysée, qui a frappé des manifestants le 1er mai 2018, ce qui l'a poussé à s'exprimer sur les plateaux télé.
J'ai eu une réaction qui est une réaction de citoyen qui a voulu aider, à un moment, appréhender des gens qui sont, pour moi, des délinquants. Le président de la République n'a rien à voir dans les événements du 1er mai. Et à travers ce qui s'est passé le 1er mai, on essaye de l'attendre.
Ou encore l'affaire des financements libyens mettant en cause Nicolas Sarkozy. L'ancien président a bénéficié de financements provenant du régime de Kadhafi pour sa campagne présidentielle de 2007, ce qui a fini par le conduire en prison.
Est-ce que vous imaginez, monsieur Boulot, la gravité de ce qui se joue? Si ce que je dis est vrai, si c'est un complot, si Mediapart a servi pendant des années de porte-voix un document reconnu comme faux par la justice.
Mediapart s'est aussi mis à enquêter sur de nouveaux sujets, par exemple les violences sexistes et sexuelles dont la presse française parlait très peu pendant longtemps, souvent au nom du respect de la vie privée. Et du Plenel possède d'ailleurs une anecdote d'email à ce sujet.
Je dirais que dans l'histoire de Mediapart, ce moment, et j'en ai été acteur en tant que directeur, c'est sur les violences sexistes et sexuelles. Il y avait eu un peu de mouvement, notamment aux États-Unis, et un jour, à partir d'une confidence que j'ai obtenue qui concernait un responsable politique, un vice-président de l'Assemblée nationale, je me suis tourné vers l'équipe, en l'occurrence Lénaïque Brédoux, qui est aujourd'hui co-directrice éditoriale, et j'ai dit, il faut qu'on mette ça à l'agenda. Et en fait, quand elle a abouti cette enquête, qui a donné lieu à un procès qui nous a fait pendant une semaine, et qui est intervenu avant le témoignage d'Adèle Haenel et le séisme dans le cinéma français et bien d'autres révélations que nous avons faites, qui concernent aussi bien Gérard Depardieu qu'un journaliste, Patrick Pointe d'Arvor, que évidemment d'autres figures très, très notables. Cette affaire qui concernait donc ce parlementaire écologiste qui s'appelait Denis Baupin, sur cette question des violences sexistes et sexuelles, j'avais fait, c'était le dimanche soir, tard, un mail à l'équipe pour dire, écoutez, on va mettre à l'agenda du débat public quelque chose qui est enfoui, quelque chose qui ne perce pas. Et à partir de ça, on va faire levier. Et depuis, nous appelons ça à Mediapart le journalisme d'impact.
Et puis, il y a le public. Chez Mediapart, le lecteur n'est pas un simple consommateur, il est un acteur. C'est tout le sens du club, l'espace participatif du site, comme l'explique Cécile Sourd.
Mediapart veut être un média participatif parce qu'il y a cette idée que le journalisme, il ne doit pas être surplombant. C'est-à-dire que si vraiment on prétend jouer un rôle démocratique, on n'est pas là pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser. On est là pour leur donner des informations. On est là pour leur donner des outils aussi, pour prendre part au débat.
Le club, ce sont des débats, des contributions, des échanges, parfois vifs, parfois lumineux, mais toujours citoyens. Et cette relation se prolonge hors ligne. Festivals, rencontres, débats publics, des moments qui, selon la rédaction, regonflent l'énergie collective. Pour Fabrice Arfi, cette dynamique crée une tension démocratique nécessaire.
On est du coup des agents d'intranquillité du débat public. On crée de l'intranquillité avec nos informations, mais la bonne intranquillité, pas l'intranquillité pour faire peur ou je ne sais quoi.
L'intranquillité comme moteur, comme preuve que le journalisme fait son travail. Alors, qu'est-ce que c'est l'engagement chez Mediapart ? Ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas un vernis, c'est l'essence même du métier, informer pour que les citoyens puissent exercer leur droit de savoir. Ici décrit par Michael Heidenberg.
Les citoyens ont le droit de savoir tout ce qui les concerne en fait dans la vie publique.
Mais au fond, qu'est-ce que nous raconte Mediapart ? Qu'un journal n'est pas simplement un lieu où l'on fabrique de l'information. C'est un espace où l'on fabrique du sens, du contrôle démocratique et parfois de l'intranquillité. Chez Mediapart, l'engagement, c'est une éthique de travail. Défendre l'égalité, la justice sociale, la probité, tout en refusant le confort du militantisme. C'est une méthode vérifiée, recoupée, confrontée, travaillée ensemble pour que les faits tiennent debout. C'est une indépendance radicale, un modèle économique qui protège la liberté éditoriale, coûte que coûte. C'est une relation vivante avec le public, un journal qui ne parle pas au-dessus, mais avec ses lecteurs et qui les invite à prendre part au débat démocratique. Et puis, c'est une conviction simple, presque têtue, que le droit de savoir n'est pas un luxe mais un pilier de la démocratie, que l'information peut déranger, secouer, inquiéter, et que c'est précisément pour cela qu'elle est nécessaire. Mediapart revendique d'être un agent d'intranquillité, mais cette intranquillité, c'est peut-être la preuve que le journalisme fait ce qu'il doit faire, ouvrir les yeux, ouvrir les débats, ouvrir des possibles. Merci d'avoir écouté cet épisode, et si vous voulez prolonger la réflexion, plongez-vous dans leurs enquêtes, explorez leurs méthodes et surtout, faites-vous votre propre idée. À très bientôt.
Et Léa, on vient d'entendre ton podcast. C'est un sujet sur lequel tu travailles encore actuellement. Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Eh bien oui, c'est un sujet sur lequel je mène une recherche maintenant depuis quelques mois. En fait, Mediapart, pourquoi c'est intéressant ? Ça part vraiment de ce postulat du droit de savoir. Donc Edu Plenel a écrit un livre justement donc, qui s'appelle « Le droit de savoir » où il parle de la façon dont le public devrait recevoir l'information et la manière dont les journalistes doivent leur donner de façon correcte. Donc vraiment ce droit de savoir. Donc Mediapart le met en scène de façon structurelle. Donc là j'en ai parlé dans le podcast, la façon dont le modèle économique est construit pour que les journalistes puissent pleinement prendre en main leur rôle d'intérêt général, passer au-delà des puissants parce que le capital du Mediapart est protégé. Il y a aussi ce participatif qui est tellement important dans la rédaction. Les abonnés sont vraiment le fond de capital de Mediapart à l'heure actuelle. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant dans cette rédaction. C'est les fondements structurels qui permettent l'engagement. Et cette enquête qui reste au cœur de tous les articles et de tous les pôles, on retrouve cette méthodologie. Et c'est vraiment ce qui rend Mediapart un média à part entière en termes d'engagement journalistique.
Et donc toi, tu comptes encore travailler sur ce sujet, poursuivre tes recherches sur Mediapart ?
Bien sûr, parce que donc là, c'est un mémoire que je suis en train d'écrire. Donc fatalement, là, je suis en train de travailler sur justement comment la méthodologie de l'enquête permet l'engagement au sein de Mediapart et comment, en s'attaquant, on va dire, à la vérité de fait, ils arrivent à contrebalancer cette vérité d'opinion dans laquelle on se trouve actuellement dans le régime médiatique actuel.
Et on l'a entendu, Mediapart est un journal engagé, l'un des premiers à médiatiser les violences sexistes et sexuelles. Et on se souvient justement, Eléa, de l'affaire Denis Baupin.
Oui, donc c'est une affaire qui sort en 2016, donc c'est plus ou moins un an et demi avant la sortie médiatique de l'affaire Weinstein. Et en fait, c'est assez inédit dans le paysage médiatique français parce que là où d'habitude les violences sexistes et sexuelles étaient peu traitées, en tout cas pas dans l'angle social qu'a adopté Mediapart, puisqu'on va dire que l'intérêt général s'arrêtait à la porte de la chambre, comme l'expliquaient les politiciens et les journalistes de l'époque. Là, Mediapart arrive avec vraiment un nouveau visage du traitement des violences sexistes et sexuelles. On parle des femmes, on donne la parole aux femmes qui ont incriminé M. Denis Baupin, qui a d'ailleurs été... qui a quitté son poste à l'Assemblée nationale et qui a été écarté du Parti écologiste. Et donc, c'est vraiment un renouveau dans la vision des violences sexistes et sexuelles. Et d'ailleurs, on va même donner du crédit aux journalistes, parce que Lénaïque Bredou, c'est une féministe qui est engagée, qui a signé une tribune justement pour les journalistes féministes. Et en fait, son engagement féministe va être vraiment utilisé comme quelque chose de professionnalisant dans le traitement de l'enquête Denis Baupin.
Eh ben, merci Eléa pour ces informations. Et on accueille Sacha Baquès. Bonjour.
Bonjour Auriane.
Alors Sacha, toi tu t'es intéressée au traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles justement. Alors pourquoi ce sujet ?
Je pense que ce sujet, il part un peu d'une question que je me suis posée moi-même. Donc c'est vrai que depuis l'affaire Weinstein, il y a quand même eu une mise à l'agenda des violences sexistes et sexuelles qui sont importantes. Et je voulais un peu voir s'il y avait eu justement une évolution de traitement depuis l'affaire Weinstein et si surtout là maintenant on traitait correctement les violences sexistes et sexuelles.
Et c'est une question que tu as approfondie dans ton podcast que nous allons écouter.
Si je devais plaider en faveur de Bertrand Cantat à Vinu, je dirais c'est d'abord un drame avant d'être un crime.
Anne Sinclair, que je connais mieux que beaucoup de gens, ne serait pas aujourd'hui aux côtés de Dominique Strauss-Kahn si Dominique Strauss-Kahn était un violeur.
Quand elle dit qu'il y a eu viol, qu'elle vous accuse de viol...
Mais je vous dis que absolument pas.
Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Désolé de vous poser cette question aussi.
Est-ce normal pour un journaliste de s'excuser de poser une question à propos d'un viol ? Comme vous venez de l'entendre, c'est en tout cas ce qu'a fait Yann Barthès avec Patrick Poivre d'Arvor, accusé de viol par de nombreuses femmes. Ces prises de parole, elles sont fréquentes sur des plateaux de télévision après l'annonce d'une affaire de violence sexuelle. Choix des invités, termes employés, sélection des affaires traitées, les médias jouent un rôle central dans la manière dont les violences sexistes et sexuelles sont perçues dans l'espace public. En 2017, le mouvement hashtag MeToo marque un tournant. À l'origine, une enquête publiée dans le New York Times par les journalistes Jodie Comter et Megan Tui révèle les accusations de violences sexuelles commises par le producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Dans la foulée, des milliers puis des millions de femmes partagent leurs témoignages sur les réseaux sociaux sous le hashtag MeToo ou le hashtag Balance ton porc en France, donnant une visibilité mondiale aux violences sexistes et sexuelles. Un électrochoc sociétal que le monde des médias a forcément dû accompagner. Selon une enquête de Reporters sans frontières publiée en 2024, 48% des journalistes interrogés estiment que le hashtag MeToo a eu un impact significatif sur le traitement médiatique de ces questions. Moins de la moitié donc. Car si le mouvement a contribué à libérer la parole et à imposer ses sujets dans l'agenda médiatique, il n'a pas transformé automatiquement les pratiques journalistiques. La preuve, le dernier extrait que vous venez d'entendre provient d'une émission du magazine Quotidien diffusée en 2021. Pour comprendre l'impact du mouvement hashtag MeToo, je suis allée à la rencontre de Caroline Wiggins, docteure en information et communication à l'Université de Liège. Elle nous rappelle l'apport essentiel du mouvement.
Donc effectivement, le hashtag MeToo, c'est un moment important pour la médiatisation des violences sexistes et sexuelles. On a parlé d'ailleurs plutôt de libération de l'écoute plutôt que de libération de la parole, puisque à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est pas tellement que tout à coup les victimes se sont mises à parler de ce qu'elles ont vécu, mais plutôt tout à coup on y a prêté attention. Évidemment, le rôle des médias traditionnels était très important dans ce cadre-là.
Pour les rédactions, il était parfois difficile d'accéder à ces témoignages et de les relayer. Ce mouvement de libération d'écoute a toutefois permis aux journalistes de s'emparer davantage de ces questions. C'est ce sujet que j'ai abordé avec ma deuxième interlocutrice, Sabine Panet, rédactrice en chef d'Axel Magazine, un trimestriel féministe. Sabine Panet travaille sur ces enjeux depuis plus de 20 ans, particulièrement sur le traitement médiatique réservé aux affaires de viol.
Avant, en fait, 2017, c'était évidemment très difficile de les trouver. Mais à partir du moment où certaines femmes commençaient à s'exprimer sur les réseaux sociaux en utilisant hashtag MeToo et en dénonçant directement ou indirectement une personne, les journalistes pouvaient avoir accès à elles, en fait, et essayer de rassembler tous ces témoignages. Donc ça a quand même vraiment changé le standard, la feuille de route pour la manière dont on traite les violences sexuelles et les agressions sexuelles dans les médias.
Avant ce mouvement, les violences contre les femmes étaient souvent cantonnées à la rubrique judiciaire ou faits divers. C'est ce qu'explique Sabine Panet en citant les travaux de la journaliste québécoise Annabelle Caillou.
Elle raconte que avant MeToo, généralement, il fallait une plainte devant les tribunaux pour pouvoir rapporter une histoire qui impliquait des violences sexuelles, parce qu'il n'y avait pas de témoins nécessairement pour corroborer les faits, puisque la plupart du temps, bien sûr, elles se déroulent dans un cadre privé. Donc c'était un peu, pour les journalistes, la parole de la victime versus celle de l'agresseur allégué, en fait, avec des difficultés à bien sûr confirmer l'une ou l'autre des versions. Je dis ça avec beaucoup de précaution parce que moi je pense, de là où nous on est à Axel, qu'on peut vraiment rendre une histoire solide avec des éléments qui sont pas les éléments de la justice et qui sont des éléments qui viennent de l'expertise féministe, en fait, des conséquences des violences de genre.
Il est là, donc, le véritable impact du mouvement hashtag MeToo dans le monde médiatique. Les femmes sont plus écoutées et leurs récits sont davantage pris en compte. Mais quelles victimes écoute-t-on ? Parce qu'il est important de noter qu'il a pu être reproché au mouvement hashtag MeToo de ne s'intéresser qu'à des célébrités ou à un certain type d'affaires. Le cas Weinstein, bien qu'important, illustre cette manière dont la presse généraliste tend à privilégier le caractère exceptionnel des violences sexistes et sexuelles. Cette approche sensationnaliste contribue à occulter la dimension systémique et structurelle de ces violences.
Le caractère sensationnel des faits, c'est aussi le personnage de l'ogre qui est mis en avant dans les médias, hein, au lieu de parler, disons, du viol ordinaire, hein, le paradoxe de la surreprésentation en fait de certaines violences et de certains violeurs, un effet d'invisibilisation finalement de la majorité des auteurs de violences sexuelles ou de la majorité des violences sexuelles. Je reviens à une phrase de Gisèle Halimi qui disait « c'est la vie normale qui fait le violeur ».
Quand les violences sexistes et sexuelles concernent des personnes anonymes, elles apparaissent le plus souvent dans les médias sous la forme de faits divers. Des histoires présentées comme des drames privés, confinés à la sphère du couple ou de la famille. Je peux vous citer quelques exemples frappants. Ivre, il frappe sa compagne pour des grumeaux dans la pâte à crêpes. Ou encore, je cite, un terrible fait divers après qu'une femme a décongelé des frites par inadvertance. Dans ce type de récit, la violence surgit d'un détail du quotidien, d'une dispute banale. Mais ce cadrage a un effet. Il donne l'impression que ces violences sont des accidents isolés, des situations particulières, propres à un couple ou à un individu. Leur dimension structurelle disparaît. C'est ce qu'a cherché à montrer la docteure en sciences sociales Sarah Sépulcre, qui s'est intéressée à ces articles de faits divers. Elle démontre que les victimes y apparaissent souvent comme des figures très floues. On sait peu de choses d'elles, leur âge, leur origine, leur orientation sexuelle ou un éventuel handicap sont rarement mentionnés. Et même lorsqu'elles sont décrites, elles restent anonymes. Dans les articles, on parle le plus souvent d'une dame, de la mère, de l'ex-compagne, d'une infirmière, parfois même d'un cadavre. Autrement dit, des silhouettes plus que des personnes. Ces récits restent aussi centrés sur des explications individuelles. Par exemple, un homme qui n'aurait pas supporté une séparation, une relation jugée toxique ou encore une victime décrite comme fragile. Cette manière d'expliquer les violences sexuelles a un effet politique. En réduisant ces situations à des histoires individuelles, on dépolitise des conflits qui s'inscrivent pourtant dans des rapports sociaux de sexe. Ma troisième intervenante, la journaliste Sarah Duchesne du média Les Grenades, estime d'ailleurs que la couverture médiatique n'a pas fondamentalement changé après le hashtag MeToo. Ce qui varie surtout, ce sont les choix éditoriaux. Certains médias tentent de replacer ces violences dans un contexte plus large, quand d'autres continuent à les traiter comme de simples faits divers.
Je dirais que moi, la différence la plus frappante que je trouve, c'est dans les médias plus sensationnels et les médias plus généralistes. Donc, les médias sensationnels, c'est les médias un petit peu plus locaux, comme Sud Info, La Capitale, L'Avenir, tout ça. Je trouve que c'est des médias où on a encore, même aujourd'hui, des articles qui, comme je disais, qui parlent d'un féminicide comme d'un fait divers. En fait, ils vont sortir le contexte, une phrase éventuellement de l'auteur du féminicide qui va justifier, mais c'est un truc vraiment risible, quoi. Et du coup, c'est hyper frappant quand tu lis un article comme ça, tu dis, mais en fait, on parle de violence faite aux femmes, on parle d'un féminicide et eux, ils vont tourner un peu l'article presque au ridicule, quoi.
Le choix des mots n'est jamais anodin lorsqu'il s'agit de parler de violences sexistes et sexuelles. Les termes employés par les médias façonnent la manière dont ces violences sont perçues et comprises. Par exemple, parler de crimes passionnels comme cela a pu être le cas après la mort de Marie Trintignant contribue à masquer la réalité d'un féminicide et à envelopper l'acte d'un imaginaire romantique. De la même manière, certaines expressions viennent atténuer la gravité des faits. On parle de gestes déplacés plutôt que d'agressions sexuelles, de pédophilie plutôt que de pédocriminalité, ou encore de frotteurs pour désigner des agressions sexuelles dans l'espace public. Ces glissements de langage ne sont pas neutres. Ils participent à minimiser les violences et à embrouiller la compréhension. La journaliste Sabine Panet souligne également une autre tendance dans la manière dont ces violences sont nommées dans l'espace médiatique. Une forme de réduction progressive des termes.
D'une façon générale, les violences de genre sont souvent résumées aux violences sexuelles et les violences sexuelles sont souvent résumées au viol. Donc c'est voilà, moi j'étudie beaucoup le traitement médiatique des violences conjugales par exemple, ou le traitement médiatique des violences sexuelles, et donc il y a une surreprésentation déjà de certains types de violences, alors que dans les violences sexuelles, si on prend l'exemple des violences sexuelles, on peut parler d'exploitation sexuelle, de mariage forcé, de violences gynécologiques, obstétriques, d'inceste, de harcèlement, enfin voilà, il y a énormément de types de violences différentes qui font quand même rarement l'objet de traitements dans la presse.
Si le traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles reste imparfait, le mouvement hashtag MeToo a malgré tout entraîné certains changements. Dans plusieurs rédactions, une nouvelle norme semble s'être installée, celle d'un niveau minimal d'enquête et de vérification lorsqu'il s'agit de traiter des violences sexuelles. Un nouveau standard journalistique qui, selon certaines observatrices, a aussi contribué à faire évoluer la manière dont ces questions sont abordées dans l'espace public. Certains indicateurs vont dans ce sens. En France, un rapport de l'association Nous Toutes montre par exemple que la presse écrite mentionne aujourd'hui beaucoup plus souvent le terme « féminicide ». Il apparaît 28 fois plus dans les articles qu'en 2017. Mais pour la journaliste Sabine Panet, ces évolutions doivent être nuancées.
Évidemment, le traitement médiatique s'est globalement amélioré. Avec ce que cite Nous Toutes, c'est une politisation croissante des féminicides, mais encore une fois avec beaucoup de nuances. Ce n'est pas parce qu'on utilise des mots clés ou des nouveaux mots qu'il faut utiliser quand on est un média qui se veut proche de la société que fondamentalement nos façons de faire ont changé ou que notre rapport aux violences de genre a changé en interne.
Et cette prudence, elle est également partagée par la docteure Caroline Wiggins.
Ça n'a pas non plus été un mouvement homogène, uniforme. On peut pas dire, je crois, qu'il y a eu une révolution là dans les médias traditionnels qui était généralisée, pas du tout. Et donc, il est encore très fréquent aujourd'hui de voir la parole des victimes remise en cause, de voir les témoignages de violences utilisés de façon sensationnaliste pour faire 10 clics, sans aucune contextualisation quant à l'origine de ces violences sexistes et sexuelles, et parfois même avec peu d'égard pour la sécurité des victimes qui s'expriment.
Pour tenter d'améliorer le traitement médiatique des violences contre les femmes, certaines initiatives ont vu le jour. On peut citer en Belgique l'Association des journalistes professionnels, qui a par exemple publié en 2021 un guide pratique intitulé « Comment informer sur les violences contre les femmes ». Je ne peux que vous conseiller de le consulter si vous souhaitez creuser le sujet. Car au fond, la manière dont les médias parlent des violences faites aux femmes n'est jamais neutre. Elle peut invisibiliser, banaliser ou au contraire contribuer à mieux comprendre et à lutter contre ces violences. Informer, ce n'est donc pas seulement raconter des faits, c'est aussi choisir les mots, les angles, les histoires que l'on décide de rendre visibles.
Et c'est un sujet complexe, la façon de traiter les violences sexistes et sexuelles dans les médias nous interroge, nous, en tant que futurs journalistes. Sacha, au cours de ce travail, as-tu vécu des rencontres qui t'ont marqué ?
Justement, une avec Sabine Panet, qui est donc rédactrice en chef de Axel Magazine. C'est vrai qu'en parlant avec elle, je me suis rendu compte que, en tant que futur journaliste qui s'intéresse à ces questions, j'avais encore quand même beaucoup de choses à apprendre. Alors c'est normal, c'est logique. Elle travaille sur ces questions depuis plus de 20 ans et dans un média qui est spécialisé. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas en fait à avoir encore autant de choses à apprendre, et j'ai vraiment appris en faisant ce podcast que oui, il y a certains glissements de langage. Comme je peux en citer un autre, elle s'est fait violer par exemple, non, elle a été violée. Elle s'est pas fait violer. Elle n'a pas participé à l'acte, quoi. Donc c'était pas consenti. Donc oui, voilà. C'était surtout ça qui a été très marquant.
Une rencontre marquante, donc. Merci pour ces précisions, Sacha. Et Yoline Olivier est aussi avec nous sur ce plateau. Bonjour, Yoline.
Bonjour.
Alors toi, tu as suivi l'affaire P. Diddy depuis ses débuts. Tu es passionnée de pop culture. Qu'est-ce qui a piqué ta curiosité dans ce procès ?
Comme on dit, je suis passionnée de pop culture, donc je suis toute l'actualité qui se passe. Et l'affaire P. Diddy, ça a été vraiment quelque chose qui m'a touchée, dans le sens où C'est un rappeur, c'est une histoire qui a fait le tour et ça a été extrêmement médiatisé. Et surtout, le fait, cette affaire est arrivée réellement avec la vidéo de Cassie Ventura qui se fait agresser dans l'hôtel. Donc, c'est comme ça que ça a été dévoilé et que le procès est arrivé. Donc, ça m'a permis de suivre après toute l'histoire.
Et cet intérêt, tu le prolonges car tu comptes traiter ce sujet justement dans la réalisation de ton mémoire.
Tout à fait. Du coup, j'ai réalisé ce podcast et ça m'a donné envie de traiter de cette affaire dans mon mémoire. Donc, dans le mémoire, on va traiter le traitement médiatique du procès de P. Diddy dans des médias américains, donc The Washington Post et The Washington Times. Donc, ce seront deux journaux assez différents et voir comment est-ce qu'ils ont traité cette affaire dans l'ensemble.
Merci Yoline, et nous allons donc écouter ton analyse de cette affaire complexe.
Le président ! Le président ! Le verdict est tombé. P. Diddy est acquitté.
Le verdict est tombé après des mois d'attente. Le rappeur et producteur américain P. Diddy a été condamné ce vendredi à 4 ans et 2 mois de prison.
À la fin du procès du chanteur P. Diddy aux États-Unis, il échappera à la prison à vie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui a fait énormément de bruit dans le monde de la musique et dans les médias, l'affaire P. Diddy. Qui est-il vraiment ? Que s'est-il passé lors de son procès ? Et surtout, pourquoi cette affaire a-t-elle été autant médiatisée ? Comme vous venez de l'entendre, Last Night est une des chansons les plus célèbres de P. Diddy. P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, est un rappeur, producteur et entrepreneur américain. En 2024, son nom fait soudainement le tour des réseaux sociaux et des médias internationaux. La raison, la diffusion d'une vidéo particulièrement choquante. Sur ces images filmées dans un hôtel en Californie, on voit l'artiste agresser physiquement son ex-compagne, Cassie Ventura. Cette vidéo va relancer plusieurs accusations déjà connues et mener à l'ouverture d'une enquête. Quelques mois plus tard, un procès très médiatisé commence, il se déroule entre mai et juillet 2025. Mais alors pourquoi en reparler aujourd'hui en avril 2026 ? Eh bien pour deux raisons. D'abord parce que l'on approche de la date anniversaire du début du procès, mais aussi parce que la vidéo filmée dans cet hôtel fête ses 10 ans. Avant de comprendre l'affaire, revenons un instant sur l'homme au centre de cette histoire, et pour discuter du sujet, j'ai invité Chelsea Kinzunga, journaliste culturelle, notamment au soir.
Je m'appelle Chelsea Kinzunga, j'ai 26 ans, je suis journaliste et aussi étudiante en journalisme. c'est comme ça que je me présenterai.
On va parler de l'affaire P. Diddy. Pourquoi cette affaire a-t-elle pris une telle ampleur médiatique dans l'industrie musicale et au-delà ?
Moi, je dirais que cette affaire a pris une énorme ampleur parce que déjà, P. Diddy, c'est pas qu'un artiste. C'est un symbole vivant de la réussite dans le hip-hop, si on parle concrètement et objectivement. C'est un architecte de carrière, c'est un homme d'affaires qui a traversé plusieurs décennies sans réellement être inquiété. C'est quelqu'un qui a permis de mettre en avant beaucoup d'artistes, beaucoup de genres.
Pour bien comprendre qui il est, on va faire un petit retour en arrière. Sean Combs naît le 4 novembre 1969 dans le quartier d'Harlem à New York. Son enfance est marquée par un drame, son père Melvin Combs est lié au trafic de drogue et il est assassiné lorsque Sean n'a que 2 ans. Sa mère, Janice Combs, élève alors seule la famille et travaille dur pour offrir un avenir à ses enfants. Plus tard, Sean Combs décide d'étudier à l'université d'Howard à Washington DC, mais très vite, il abandonne l'université pour rentrer dans l'industrie musicale. Au début des années 90, il obtient un stage chez Uptown Records et il s'y fait remarquer pour son sens du business, mais aussi pour ses colères explosives. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il reçoit le surnom de Puff Daddy. Mais en 1993, il est licencié. Cet échec devient un tournant et lui permet de créer son propre label, Bad Boy Records. Il signe plusieurs artistes prometteurs, dont Notorious B.I.G., et commence lui-même une carrière de rappeur. Rapidement, P. Diddy devient l'une des figures les plus influentes du hip-hop. Mais sa réputation ne repose pas uniquement sur la musique. Il est aussi connu pour ses fêtes extravagantes et pour ses nombreux démêlés avec la justice. Au fil des années, son nom apparaît dans plusieurs affaires, agressions, menaces, violences ou encore implications dans des fusillades. La plupart du temps, ces affaires se terminent par des accords à l'amiable. Chelsea, vous êtes avec nous. Est-ce qu'on peut dire que P. Diddy est une icône incontournable ?
Avant, en tout cas, c'était vraiment une image d'icône intouchable. C'était quelqu'un qui représentait la Black Excellence. On le voyait souvent dans des dîners, par exemple, avec Roc Nation, avec Jay-Z, avec beaucoup d'hommes influents noirs américains. C'était quelqu'un vraiment qui prenait le succès, qui est parti de rien et qui a réussi à construire tout un empire autour de lui, à se créer une vie, une carrière, une légitimité. Voilà, il incarnait une forme de toute-puissance, vraiment un homme respecté, craint, admiré.
Pendant ce temps, une jeune chanteuse commence à se faire connaître, Cassie Ventura. Elle explose avec son titre Me and You, que vous venez d'entendre. P. Diddy décide alors de la signer sur son label avec un contrat de 10 albums. À ce moment-là, Cassie a 21 ans, P. Diddy en a 36. Il commence une relation et très vite, selon plusieurs témoignages, Diddy l'introduit aux drogues dures, mais aussi aux freak-off. Ce sont des fêtes sexuelles souvent précédées de grandes soirées, certaines pouvant durer des heures, voire des jours. À cette période, P. Diddy contrôle une grande partie de la vie de Cassie, et du côté musical, sa carrière reste limitée. Elle sort un seul projet et participe à quelques collaborations. Selon plusieurs témoignages encore, le comportement de Diddy devient alors de plus en plus problématique. Il est décrit comme jaloux, impulsif et violent. En 2016, un événement va marquer l'affaire. Cette année-là, Cassie tente de quitter l'hôtel où elle séjourne avec Diddy, en Californie. Une caméra de surveillance filme alors une scène devenue centrale dans le dossier. Sur celle-ci, on voit Diddy courir dans un couloir, rattraper Cassie et l'agresser physiquement. Par chance, des membres du personnel sont présents, alors Diddy aurait tenté de les payer pour qu'ils gardent le silence. Mais 8 ans plus tard, en 2024, la chaîne CNN diffuse la vidéo. Après sa diffusion, Diddy publie un message sur ses réseaux sociaux et reconnaît avoir merdé et touché le fond.
My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video.
Chelsea, est-ce que P. Diddy a déjà eu des comportements similaires avant ?
En fait, c'est quelqu'un qui est décrit comme quelqu'un d'assez impulsif et quelqu'un d'assez violent. Donc, c'est possible qu'il ait mis une pression. Mine de rien, c'est quelqu'un de très important. C'était un peu le lien dans les années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Et je pense que c'est surtout quelqu'un qui joue sur la toxicité, donc sur l'amour, sur la relation qu'il a avec des personnes. Et en fait, son argument, c'est « je vous aime, je suis là pour vous, j'ai toujours été là pour vous, on est ensemble, on va jamais se séparer ». Et c'est également ce qu'il faisait avec Cassie.
Il est temps d'aborder le fameux procès. L'explication risque d'être longue, mais elle est nécessaire pour la compréhension. Avant le procès pénal, une autre procédure avait déjà eu lieu. Cassie Ventura avait déposé une plainte au civil et l'affaire se termine par un accord à l'amiable en 2023. P. Diddy a versé une somme importante d'argent à Cassie, mais cette plainte a ouvert la voie à une enquête pénale. Chelsea, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation ?
Alors en mars 2024, les autorités fédérales lancent une enquête. Il y a plusieurs perquisitions qui sont organisées dans les propriétés de P. Diddy et les agents y découvrent plusieurs éléments, donc des armes légales et illégales, donc sans certificat, des stupéfiants, mais aussi 1000 bouteilles d'huile pour bébé. C'est un élément qui a fait quand même pas mal de bruit, surtout sur les réseaux sociaux. Et les enquêteurs du coup saisissent également des centaines de téléphones et des disques durs. Des éléments qui vont jouer un rôle important dans l'enquête. Après cette perquisition, en septembre 2024, le FBI procède à l'arrestation de P. Diddy et les charges qui sont retenues contre lui sont assez graves. Trafic sexuel, transport de personnes à des fins de prostitution, mais également association de malfaiteurs. Et à ce moment-là, l'artiste plaide non coupable, il demande à être libéré sous caution, mais bien évidemment, la demande est refusée parce que les charges retenues sont trop graves. Et le procès commence le 5 mai 2025. Les caméras sont interdites dans la salle d'audience, donc tout ce qu'on a de ces audiences, ce sont des dessins et des transcriptions du procès. Les journalistes suivent le procès depuis une salle séparée et donnent directement des feedbacks à la presse. Et il y a plusieurs témoins qui se succèdent à la barre.
Cassie Ventura fera également partie des témoins. Au moment de son témoignage, elle est enceinte de 8 mois de son mari Alex Finn. Elle explique que Diddy lui avait parlé de ses préférences sexuelles, mais elle affirme aussi qu'elle était souvent sous l'influence de la drogue lors des freak-offs. Après leur séparation en 2018, Cassie explique avoir traversé une grave dépression avec des pensées suicidaires. Les avocats de P. Diddy contestent ces accusations et s'appuient notamment sur des messages échangés entre les deux anciens partenaires. Ils affirment que Cassie était dépendante aux drogues et qu'elle aurait trompé Diddy pendant leur relation. D'autres témoins viennent cependant soutenir la version de Cassie, des experts témoignent également, et selon eux, plusieurs éléments confirment le comportement violent de P. Diddy. P. Diddy, lui, a choisi de ne pas témoigner, mais il présente néanmoins des excuses aux victimes principales. Le verdict tombe en octobre 2025. P. Diddy est condamné à 4 ans de prison et à 500 000 dollars d'amende. Il est reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, En revanche, les deux accusations les plus graves, c'est-à-dire trafic sexuel et association de malfaiteurs, ne sont pas retenues. Ses avocats annoncent rapidement leur intention de faire appel. Après avoir vu les faits et le procès, intéressons-nous maintenant à la médiatisation de cette affaire. Car l'affaire Pididi a été couverte dans le monde entier. Mais alors pourquoi a-t-elle intérêt ? Eh bien d'abord à cause de la célébrité de l'artiste, mais aussi en raison de la gravité des accusations. Depuis la diffusion de la vidéo par CNN, les révélations se multiplient. Les journaux américains, mais aussi internationaux, publient des centaines d'articles. Et les réseaux sociaux jouent également un rôle majeur. Par exemple, la découverte des 1000 bouteilles d'huile pour bébé est rapidement devenue virale sur Internet. Lorsque le procès a commencé, l'attention médiatique a explosé, des fans se sont rassemblés devant le tribunal, et sur Internet, les internautes ont analysé chaque élément de l'affaire. Des vidéos récapitulatives sont également apparues sur les réseaux, mais aussi des documentaires ont été réalisés pendant et après le procès. Tout cela permet au public de se forger sa propre opinion, n'est-ce pas, Chelsea ?
Les réseaux sociaux, ils ont amplifié, polarisé et aussi parfois simplifié à l'extrême. Mais ce qui est bien aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont permis une mémoire collective, alternative. Ils ont trouvé d'autres faits, d'autres images, d'autres preuves. Là où les témoignages, les archives et les contradictions de l'industrie circulent librement. Donc ça a permis aussi d'ouvrir une voie alternative et ça a permis aussi au public de pouvoir se faire son propre jugement.
L'affaire dépasse rapidement les frontières américaines, les agences de presse relaient l'histoire en Europe, mais est-ce que le regard européen diffère ?
Aux États-Unis, en fait, l'affaire, elle est traitée comme un véritable séisme culturel. En Europe, je pense qu'on observe plus qu'on ne se sent réellement impliqué, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment tout le monde se sent concerné par la situation. Et du coup, tout le monde a son mot à dire et du coup, tout le monde réagit. Et je pense que c'est pour ça que la presse aussi en a fait une grosse histoire.
Cette affaire rappelle aussi d'autres scandales célèbres. On pense notamment à R. Kelly ou à Jeffrey Epstein. Dans le cas d'Epstein, de nombreuses personnalités publiques ont été mentionnées dans des documents rendus publics. Parmi elles, le prince Andrew, Donald Trump, la future reine de Norvège ou encore Jack Lang. Jeffrey Epstein s'est malheureusement suicidé en prison avant son procès. Mais les documents recueillis par le FBI continuent d'être révélés progressivement. Alors, que va devenir P. Diddy ? Reviendra-t-il un jour dans l'industrie musicale ? Choisira-t-il de disparaître de la vie publique ? Pour l'instant, rien n'est certain. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle affaire.
On passe maintenant à un sujet un peu plus local, les travaux sur le circuit de Spa-Francorchamps avec Tom Gurs. Bonjour Tom.
Bonjour Ariane.
Alors la Formule 1 est une de tes passions et c'est un thème récurrent dans ton parcours professionnel. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce lien ?
Oui, donc la Formule 1 justement est un sport que j'apprécie énormément depuis que je suis tout petit et j'ai déjà eu l'occasion, par chance, de travailler dans ce milieu durant un an et demi. C'était une super expérience d'ailleurs. Et grâce à celle-là, j'ai su me faire quelques contacts dans le milieu, mais aussi du coup au circuit Spa-Francorchamps. Et c'est le circuit local, donc c'est pour ça qu'il me tient tout autant à cœur que le sport, et que j'ai choisi de parler de ce circuit du coup.
Et tu dis que tu as travaillé dans ce milieu, tu as travaillé en quoi concrètement ?
Donc j'étais journaliste Formula, et j'ai également fait couvert de la Formule électrique à un moment pour un média canadien en presse écrite. C'était quelque chose d'assez spécial, une belle expérience à vivre et voilà, c'était, comme je l'ai dit, chouette.
Et donc, tu as rencontré des difficultés avec certains intervenants. Comment se sont passés les contacts ?
Les contacts se sont très bien passés, mais oui, j'ai eu un petit souci. C'était plus en termes de timing avec Amaury Berthelemé, le PDG du circuit de Spa-Francorchamps qui intervient dans le podcast. Celui-ci ne souhaitait pas s'exprimer au moment où je l'ai contacté parce qu'il venait énormément de parler des travaux du circuit et il préférait attendre justement plus le début de la saison des sports moteurs sur le circuit de Spa-Francorchamps et donc j'ai dû attendre cette période-là pour pouvoir avoir ses réponses parce que c'était ce qu'il souhaitait et c'est ce qu'on m'a notamment dit de par son attaché de presse quand j'ai relancé autrement. Et du coup, c'est arrivé un peu à la limite de quand j'ai dû clôturer ce podcast, mais fort heureusement, tout s'est bien passé et il est en très bon état.
Des deadlines serrées donc, et sans attendre, nous allons écouter le Vroomcast.
Les médias en ont énormément parlé ces derniers temps. Le circuit de Spa-Francorchamps a fait des travaux et est toujours en train d'en faire. Le prix de ceux-ci s'élève à environ 10 millions d'euros. De nombreuses personnes s'en inquiètent et d'autres voient cela d'un bon œil. Mais les travaux sont-ils vraiment indispensables? Pour tenter d'y répondre, nous en parlerons avec Vincent Franssen, un expert automobile, et Amaury Berthelemé, le PDG du circuit. Bienvenue dans Vroomcast, votre podcast qui parle de l'actualité moteur. Vous l'aurez compris, de nombreux travaux ont été réalisés durant la période hivernale au circuit de Spa-Francorchamps et d'autres sont toujours en cours. Parmi ceux déjà terminés, on peut évoquer la rénovation de vibreurs, le travail sur le tarmac et les systèmes de drainage pour une meilleure évacuation de l'eau, un chantier de la voirie intérieure du paddock et aussi la création d'un camping pour les commissaires à Blanchimont. Pour ce qui est des travaux en cours, on peut évidemment parler de cette entrée à Ster qui est en train d'être complètement refaite pour devenir un réel point d'accueil du circuit avec cette passerelle piétonne qui passe au-dessus de la piste. Il y a aussi la tour Uoda qui est en train d'être construite pour remplacer la tour Uniroyal. Elle servira de tour de contrôle, d'espace VIP et accueillera aussi le simulateur de l'entreprise belge Virtex. Ces nombreux travaux ont été réalisés pour que le circuit reste attractif, comme l'affirme Amaury Berthelemé.
On pourrait aussi faire moins de travaux et avoir moins d'ambition, ça c'est possible, hein, mais ce n'est pas du tout notre projet. Notre projet, c'est de faire évoluer le site pour qu'il puisse accueillir plus de monde dans de meilleures conditions et surtout asseoir une diversification des activités pour devenir une destination touristique tout au long de l'année.
Pour Vincent Franssen aussi, il était important de remettre le circuit à jour.
C'est un circuit qui doit rester up-to-date, même s'il a une histoire centenaire. C'est un circuit qui doit rester dans l'air du temps, absolument. Et donc, tous ces travaux en cours, la Uoda Tower, comme on l'appelle maintenant, et qui remplace la tour Uniroyal, qui va remplacer, que ce soit la passerelle, que ce soit plein d'autres choses, finalement. Tout ça fait partie d'un processus d'évolution tout à fait normal pour le circuit.
Comme le dit Vincent Franssen, ces travaux étaient nécessaires pour le circuit. On l'a d'ailleurs déjà vu par le passé. De base, le tracé faisait 14 km et il n'en fait plus que 7. Cette réduction de la distance a été faite pour des raisons sécuritaires, mais aussi pour rester aux normes afin de pouvoir continuer d'accueillir des événements de prestige. Et puis au début des années 2000, le circuit est devenu permanent. Le but était d'utiliser la piste de façon plus intensive et aussi de rester à nouveau aux normes demandées. Les travaux de cette fois-ci ne font pas exception à la règle, ils permettent de conserver une telle attractivité pour le circuit. Vincent Franssen a d'ailleurs un exemple frappant de ce qui aurait pu se passer si le circuit n'avait jamais été mis à jour.
J'ai une affection toute particulière pour le circuit de Charade, planté au milieu des volcans d'Auvergne, qui est un circuit qui rappelle beaucoup Francorchamps. Mais par contre, quelle catastrophe de constater qu'en fait, à Charade, on n'organise quasiment plus de courses. Parce que Charade, c'est un circuit qui est resté coincé dans le passé. C'est le parfait exemple, en fait, puisqu'au niveau tracé, c'était assez semblable. Quelque chose de très vallonné, planté au milieu d'un décor totalement naturel et tout. C'est la différence entre faire un truc intéressant et intelligent à Francorchamps pour permettre au circuit de perdurer et ne pas le faire pour le circuit de Charade, même s'il a été raccourci également, mais il est resté avec ses murs de béton sur le côté, son absence de dégagement et ce genre de choses. Et donc, c'est un frein à l'expansion du circuit, très clairement.
Avec ce témoignage, on comprend réellement l'importance de la majorité des travaux réalisés actuellement à Spa-Francorchamps. Mais certains paraissent superflus, comme ce projet de tel à venir. De son côté, Amaury Berthelemé voit ça comme un futur point fort du circuit.
Cette diversification, elle va également passer effectivement par le développement de cette offre hôtelière. Vous savez, sur les circuits, sur de nombreux circuits, qui accueillent notamment la Formule 1, il existe généralement un hôtel, il existe une offre hôtelière qui permet de doper l'attractivité du circuit. Cette offre hôtelière, avec tout ce qui va avec, le service, la salle de sport, le centre de wellness, le restaurant, tout ça va permettre vraiment d'augmenter encore l'attractivité de Spa-Francorchamps aux yeux de ceux qui sont les organisateurs, finalement, du spectacle, les championnats. Spa-Francorchamps, évidemment, c'est un ADN très fort, une histoire très longue, plus de 100 ans, un tracé unique. Mais ce qui participe aussi à l'histoire de Spa-Francorchamps, c'est les championnats. C'est eux qui amènent le spectacle, finalement. Et donc, nous, on doit rester, on doit travailler à faire en sorte que Spa-Francorchamps reste attractif pour les grands championnats de sport moteur. Et ce projet hôtelier, il participe clairement de cet objectif d'attractivité sur un marché qui est concurrentiel à l'international.
Au-delà des bienfaits qu'il voit de cet hôtel pour les grands championnats tels que la Formule 1 et d'autres compétitions automobiles, Amaury Berthelomé voit également d'autres opportunités grâce à cet hôtel.
Le but, c'est aussi de faire vivre le site tout au long de l'année. De faire de Spa-Francorchamps une destination touristique tout au long de l'année et pas uniquement de mi-mars à mi-novembre comme c'est le cas actuellement. Et donc, ce projet avec notre partenaire anglais d'Escapade, il sera accompagné d'un programme d'activités hivernales qui permettront d'accueillir plus de monde dans la région du circuit de Spa-Francorchamps et donc finalement d'augmenter l'activité touristique dans toute la région.
Avec ce projet d'hôtel autour du circuit, de nombreuses craintes ont été soulevées pour l'économie régionale, notamment par des gîtes et des hôtels autour du tracé. Mais Amaury Berthelomé ne voit pas ça du même œil.
C'est une offre qui n'existe pas. Une offre de ce niveau-là, puisqu'on parle d'hébergement quand même haut de gamme, en bord de piste, aujourd'hui ça n'existe pas. Et donc, ce n'est pas une offre qui va prendre la place d'une autre. Au contraire, c'est une offre, comme je l'ai dit, qui aura pour objectif de doper l'attractivité de la région, d'amener plus de monde dans la région. Et donc, le but, c'est bien entendu, in fine, de rejaillir sur l'ensemble du secteur touristique de la région.
Quant à l'investissement nécessaire pour la création de cet hôtel, Amaury Berthelomé tient à rassurer.
Ici, nous avons un partenaire privé, anglais, qui va venir investir plus de 30 millions d'euros dans un projet dans notre région. Je pense qu'il faut surtout s'en réjouir et l'accueillir les bras ouverts pour que, effectivement, il devienne un partenaire des autres acteurs touristiques déjà présents dans la région et que, ensemble, nous puissions finalement porter cette région vers une ambition commune et vers plus d'activités touristiques. Je pense qu'il y a encore une marge de progression, même si notre région est déjà très appréciée d'un grand nombre de touristes. Je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin. Et donc, il faut voir ce projet comme un nouvel acteur qui va venir s'insérer dans un écosystème existant et qui va, dans une logique de partenariat, développer l'activité plutôt que prendre l'activité ailleurs.
Selon lui, l'hôtel permettra aussi de créer de l'embauche.
Le projet Escapade est un projet qui va créer plusieurs dizaines d'emplois à Spa-Francorchamps et c'est un des critères qui a prévalu lorsque le conseil d'administration du circuit a dû choisir le projet puisque il y avait plusieurs projets sur la table. Il faut pas oublier que ce projet Escapade, il est issu d'une procédure publique. On a consulté de façon publique, de façon ouverte le marché. Nous avions plusieurs projets sur la table et celui qui a été sélectionné, celui qui était le plus ambitieux, celui qui amenait le plus de création effectivement d'activités économiques et d'emplois. Donc tout à fait.
Beaucoup s'inquiètent aussi que les travaux, dont les coûts s'élèvent à autour de 10 millions d'euros, soient réalisés avec de l'argent public. Mais Amaury Berthelomé l'assure, la majorité de ces travaux sont autoportés par le circuit.
C'est essentiellement financé par les résultats financiers du circuit. Donc on a un résultat net positif et donc on a une génération de cash flow qui nous permet d'autofinancer nos investissements avec, mais de façon accessoire, de façon minoritaire, une intervention en subvention qui est versée au circuit, mais qui diminuera d'année en année à partir de 2029. On a une trajectoire financière tout à fait robuste qui nous permettra de tendre à moyen terme vers une autonomie complète sur le plan financier.
Comme on le comprend, la situation financière du circuit est donc saine. Mais le Grand Prix de Formule 1, qui a lieu actuellement chaque année, pourrait ne plus avoir une tenue annuelle dès 2028. Cela n'inquiète toutefois pas Amaury Berthelomé.
Il n'y a pas de risque pour le circuit, puisque le circuit, il a pour objectif d'acquérir la Formule 1 chaque année. Mais s'il y a des années sans Grand Prix de Formule 1, il y aura d'autres activités. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter pour la santé financière du circuit. Mais c'est surtout un enjeu pour la vitalité économique de la région.
La Formule 1 ne viendrait plus chaque année à Spa, donc dès 2028. Mais le contexte géopolitique actuel, qui est assez tendu avec notamment le conflit au Moyen-Orient, pourrait bien venir tout changer. Le Grand Prix de Bahreïn et celui d'Arabie Saoudite n'ont pas été maintenus pour cette saison 2026 et pourraient peut-être être supprimés du calendrier les années suivantes. Il y aurait donc une possibilité pour Spa-Francorchamps de récupérer une place lors des années où il n'était pas prévu. En tout cas, une chose est sûre, l'organisation du Grand Prix et le circuit vont tout faire pour que la tenue reste annuelle.
Le contexte international, finalement, pourrait peut-être ouvrir des opportunités à l'avenir pour être davantage présent au calendrier de la Formule 1.
En tout cas, avec tous les travaux déjà réalisés et les changements à venir au circuit de Spa-Francorchamps, l'avenir de celui-ci promet donc d'être serein. Vincent Frensen est d'ailleurs d'accord avec moi sur ce point.
Pour le circuit de Spa-Francorchamps, je ne prévois pas vraiment des années compliquées à venir. Le circuit tourne à plein rendement, il est loué tous les jours, il y a plus de demandes de location, d'organisation de courses que de dates disponibles, donc ça veut dire que tout va bien pour le circuit.
Et voilà, c'était tout pour cet épisode, merci de nous avoir suivis et à très vite dans Vroomcast.
Et c'était déjà le dernier podcast de cette émission Éco Sonore. Merci pour votre écoute, vous retrouverez la suite des travaux des Master 2 demain à 14h.